VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel, du vendredi 17 août 2018. Abdelrahmane Dia à la présentation, voici les titres. Nouvelle attaque armée dans l'ouest du Burkina Faso, faisant 2 morts et 5 blessés. Soumaïla Cissé se dit vainqueur du second tour de la présidentielle au Mali avec plus de 51% des voix et va contester les résultats officiels. Un nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC fait état de 44 morts sur 78 cas. Le président gabonais Ali Bongo veut réformer le secteur de l'éducation selon ses termes qui sont un secteur sinistré.
En 2013, il avait fait le même constat en prévoyant en urgence de construire 400 salles de classe. Aucune classe n'a été construite.
La tension toujours vive entre Washington et Ankara, la Turquie qui maintient l'assignation à résidence d'un pasteur américain. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout de suite, le journal. Au Mali, au lendemain de la publication des résultats officiels provisoires du second tour, donnant vainqueur le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, l'opposant Soumaïla Cissé continue de rejeter les résultats. Soumaïla Cissé qui persiste et affirme avoir gagné même la présidentielle avec plus de 51% des suffrages. Kassim Traoré.
Costume, cravate, large sourire, Soumaïla Cissé franchit les seuils de la salle de conférence sous des tonnerres d'applaudissements. Monsieur le Président de la République, bienvenue. S'exprimer ses partisans qui avaient pris une bonne partie de la salle réservée à la presse dans une explication basée sur 11 dispositifs. Le président des jeunes de l'IRD, Abdramane Diarra, a donné les détails de la fraude avant de dire que son mentor est le président de la République du Mali. Soumaïla Cissé, en prenant la parole, s'exprimant aussi de la même manière. J'ai gagné les élections avec 51,95% contre 48,25% pour Ibrahim Boubacar Keïta. Votre vote ne sera pas volé, a-t-il dit, avant d'ajouter que nous utiliserons tous les moyens de recours constitutionnels pour arracher notre victoire. Je ne vous trahirai jamais, s'exprimer Soumaïla Cissé, avant de donner la parole à la salle pour des questions des journalistes. Voici un peu le décor de cette conférence de presse tant attendue à Bamako. Le mot d'ordre est une grande mobilisation demain sur le boulevard de l'Indépendance pour continuer la contestation avant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle.
C'était Kassim Traoré depuis Bamako. Au Burkina Faso, un autobus d'une compagnie minière a été attaqué ce matin par des hommes armés non identifiés dans l'ouest du pays, faisant au moins 2 morts et 5 blessés. Bagasikoura.
Selon un témoin, un chauffeur et un agent de la société minière ont été tués. Parmi les blessés, l'un des 2 policiers qui escortaient le véhicule, ainsi qu'un agent de la mine. Selon les médias locaux, le véhicule transportant des travailleurs de la compagnie Semafo est tombé dans une embuscade vers Warkoy, dans l'ouest du pays. Selon les premières informations, l'embuscade aurait été tendue par au moins 5 individus armés non identifiés ce vendredi matin sur l'axe Tedougou-Bobo-Dioulasso. La semaine dernière, un véhicule transportant des travailleurs d'une mine d'or avait sauté sur un engin explosif artisanal dans l'est du pays, faisant 6 morts, dont 5 gendarmes.
Au Nigeria, Médecins sans frontières annonce que 33 enfants sont morts en 2 semaines entre les 2 et 15 août dans un camp du nord-est du pays. Ce camp abrite des personnes déplacées par l'insurrection du groupe islamiste Boko Haram. Au Nigeria, toujours un journaliste arrêté cette semaine après avoir publié un document confidentiel et ayant refusé de dévoiler ses sources a été libéré sous caution ce vendredi. Samuel Ogundipe avait été arrêté avec 2 de ses collègues en lien avec la prise de contrôle temporaire du Parlement par des agents de sécurité la semaine dernière. Nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola en RDC. On totalise désormais 78 cas enregistrés dans l'est du pays où la fièvre hémorragique a déjà fait 44 morts. Morgane Guériec.
Les autorités congolaises font état de 2 décès de cas confirmés à Beni et de 5 nouveaux cas confirmés à Mabalako, dont 1 employé du centre de santé de référence de Mangina. C'est dans ce village rural, à 30 km au nord-ouest de Béni, que l'épidémie a été signalée après le décès de 6 personnes de la même famille. Sur les 78 cas de fièvre Ebola signalés, 51 sont confirmés et 27 autres sont jugés probables, selon les autorités sanitaires, qui précisent que 24 cas suspects sont en cours d'investigation. Ce nouveau pic de l'épidémie est particulièrement surveillé par les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Robert Redfield, directeur du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, a même fait le déplacement. Il a été reçu par le ministre congolais de la Santé pour évoquer des programmes de formation pour les épidémiologistes de terrain. Cette nouvelle épidémie d'Ebola a déjà fait 44 morts, dont 41 dans la province du Nord Kivu.
Le président congolais Joseph Kabila a assuré ce vendredi qu'il n'accepte aucun chantage quant à la présidentielle de décembre. Nous continuerons à être fermes sur ce dossier et à nous préparer au scrutin, a affirmé Joseph Kabila au sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe à Windhoek. Il a désigné la semaine dernière un candidat de la majorité pour lui succéder après 17 ans au pouvoir. Lancement ce vendredi en Mauritanie de la campagne pour les élections législatives et locales du 1er septembre. Cette fois, l'opposition radicale, qui avait boycotté ces derniers scrutins il y a 5 ans, a décidé d'y prendre part. Le président malgache Eri Rajaonarimampiane a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat lors de la présidentielle prévue pour le 7 novembre. Il s'est dit persuadé de pouvoir faire plus que ce qu'il a déjà fait. Le chef de l'État, âgé de 59 ans, devra notamment affronter 2 opposants et anciens présidents, Ange Rajoel et Marc Ravalomanan. Pour le moment, 13 dossiers de candidature ont été déposés à la Haute Cour constitutionnelle. La date de clôture des dépôts de dossiers est fixée au 21 août.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie a maintenu ce vendredi l'assignation à résidence d'un pasteur américain en dépit de nouvelles menaces de sanctions des États-Unis qui ont mis à mal la livre turque et auxquelles Ankara a promis de répliquer. Nicolas Pino.
Le pasteur Branson a été placé le mois dernier en résidence surveillée après plus d'un an et demi d'incarcération. Ankara l'accuse d'espionnage et d'activités terroristes, ce qu'il dément. Un tribunal d'Izmir a rejeté à nouveau aujourd'hui un recours du pasteur Andrew Branson, dont le sort est au cœur de cette grave crise diplomatique entre Ankara et Washington. Cette décision survient au lendemain de nouvelles pressions américaines. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a prévenu que Washington prendrait des sanctions supplémentaires si Ankara ne libérait pas le pasteur Branson. Ces menaces ont été balayées par Ankara ce vendredi. Nous avons répliqué en accord avec les règles de l'OMC et nous continuerons de le faire, a déclaré le ministre turc du Commerce, Ruşar Pekkan, cité par l'agence étatique Anadolu. Alors que la crise diplomatique ne montre aucun signe d'apaisement, la livre turque, qui a pourtant repris des couleurs cette semaine après une spectaculaire débâcle, piquée à nouveau du nez ce vendredi.
Le défilé militaire souhaité par le président américain Donald Trump, qui devait avoir lieu le 10 novembre, a finalement été reporté. Nous avions à l'origine pensé au 10 novembre pour cet événement, mais nous nous sommes mis d'accord pour examiner les possibilités en 2019, explique un communiqué du Pentagone. L'organisation de ce défilé militaire aurait coûté 90 millions de dollars, ce que le président Trump juge trop élevé. 2 Palestiniens ont été tués aujourd'hui par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza. Les 2 victimes participaient aux manifestations le long de la frontière avec Israël. Au moins 18 djihadistes du groupe État islamique ont été tués dans un raid aérien visant leur dernier bastion de l'est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'OSDH n'était pas en mesure de dire si ces raids ont été menés par l'aviation de Bagdad ou par la coalition internationale dirigée par Washington. L'armée irakienne a, elle, annoncé dans un communiqué avoir tué des éléments du groupe État islamique dans un raid aérien en Syrie ciblant une cellule de commande des djihadistes. Le comité des droits de l'homme de l'ONU estime que le Brésil doit autoriser Lula da Silva à participer à l'élection présidentielle d'octobre. Ce comité d'experts demande au Brésil de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à Lula d'exercer ses droits politiques depuis sa prison comme candidat à l'élection présidentielle de 2018, ajoutant que sa candidature ne pourra être annulée que lorsque ses appels en justice auront été examinés de façon équitable. L'ex-président favori des sondages est détenu pour corruption et blanchiment d'argent. Et puis... Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manerakiza.
En Côte d'Ivoire, le caoutchouc ne fait plus recette à cause d'une surproduction mondiale et des surtaxes prélevées par l'État. En 10 ans, les éveillaculteurs ivoiriens ont vu leurs revenus divisés par 5. Le pays compte actuellement près de 160 000 producteurs et produit 60% du caoutchouc d'Afrique et pointe au 7e rang mondial. Les prévisions pour 2018 atteindraient 720 000 tonnes et encore une augmentation de 20% dans les 3 prochaines années. Mais malgré cette hausse constante, les revenus individuels baissent et atteignent à peine 1 000 $ la tonne. La société immobilière burkinabé Gelpass Imo veut construire 50 000 logements abordables au Liberia. Le pays fait face à une grave pénurie de logements. Plus de 60% de la population urbaine vit dans des bidonvilles et le taux d'urbanisation est de 3,20%. L'Autorité nationale de l'habitat, la NHA, estime que 500 000 logements seront nécessaires d'ici à 2030. Le Cameroun a dépassé 100 milliards de francs CFA, son plafond de décaissement des ressources extérieures. Ceci met le gouvernement en délicatesse avec le FMI. Le ministre des Finances a annoncé le gel des appels de fonds sur ressources extérieures, sauf ceux liés au projet de la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun en juin prochain.
Et c'est Nicolas Pinot qui nous a rejoint tout de suite dans le studio pour la page des sports. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Et on démarre par la 5e journée de la Ligue africaine des champions qui a débuté aujourd'hui.
Le Oroya a réalisé une bonne opération en battant l'AS Togoport 2-1 au stade du 28 septembre à Conakry. L'international burkinabé Ossanse Mandela a ouvert le score pour les joueurs locaux à la 11e minute. Égalisation togolaise en seconde mi-temps à la 51e par Ablavin Djadja. Puis les Guinéens sont revenus à la charge 8 minutes après grâce à Boladji Simeon Sakin. Bol d'air pour le Oroya qui garde ses chances de qualification dans le groupe C en attendant l'issue du choc entre le WAC et le Mamelodi Sundowns à Casablanca. L'AS Togoport est éliminé. Actuellement match en cours, Espérance de Tunis battue à domicile 1-0 par Al Ahly dans le groupe A, mais on joue que seulement la première mi-temps. L'autre rencontre du jour 0-0 pour le moment entre l'Entente de Sétif et le tout-puissant Mazembe déjà qualifié.
Et cette cinquième journée va se poursuivre demain.
El Jadida tentera de donner du sourire à ses supporters devant le MC Alger. L'étoile sportive du Sahel déjà qualifiée jouera contre le Primero de Agosto. Les Ougandais du Kasisiye face aux Township Rollers du Botswana. Il reste encore 5 places à prendre pour les quarts de finale.
En Europe, Nicolas, la Serie A reprend demain avec les débuts très attendus de Ronaldo.
Et oui, c'est en tant que titulaire que CR7 va découvrir le championnat d'Italie sur le terrain du Chievo Vérone, dauphin de la Juventus la saison dernière. Naples débute à Rome face à la Lazio. Le retour de Carlo Ancelotti sur le banc italien près de 10 ans après son départ du Milan AC, c'est l'une des attractions de la saison. L'Inter Milan, qui a réussi un recrutement impressionnant, fera son entrée en lice dimanche sur la pelouse de Sassuolo. La Ligue a par ailleurs annoncé le report des matchs entre le Milan AC et Gênes et la Sampdoria Gênes contre la Fiorentina, après bien évidemment l'accident qui a eu lieu à Gênes avec au moins 38 morts.
Kevin De Bruyne quitte les pelouses pour 3 mois.
Le milieu de terrain vedette de Manchester City sera absent 3 mois après s'être blessé au ligament latéral du genou droit. Le milieu belge de 27 ans s'est blessé à l'entraînement. Il devra faire son retour mi-novembre et pourrait donc participer aux 2 dernières journées de la phase de groupe de la Ligue des Champions.
Et puis Messi, il est laissé au repos pour les matchs amicaux.
La star du Barça a été laissée au repos pour les 4 matchs amicaux que l'Argentine disputera d'ici la fin de l'année. Et d'après la presse argentine, Lionel Messi a demandé au nouveau sélectionneur Lionel Scaloni de ne pas le convoquer pour ses matchs amicaux 2018.
Peut-être certains pensent qu'il prépare sa retraite internationale.
Eh oui, qui vivra verra. Hein.
Merci beaucoup Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. Crise de l'éducation au Gabon. Dans un discours, le président Ali Bongo a jugé l'éducation au Gabon sinistrée et annonce vouloir révolutionner le système éducatif. Le président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, Jean-Rémy Yama, demande au chef de l'État Ali Bongo d'agir pour sauver le secteur éducatif gabonais plutôt que de s'évertuer à constamment faire le diagnostic. Herman Nungbo a joint Jean-Rémy Yama.
En 2013, il avait fait le même constat en prévoyant en urgence de construire 400 salles de classe. Aucune classe n'a été construite. L'année dernière, en 2017, pour 2018, ou plus tard à mars 2018, il avait prévu également aménager des écoles, des salles de classe avec des équipements en ordinateur et tout le reste. Alors donc, rien n'a été fait. Mais ce qu'on retient seulement, c'est que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais construit une seule salle, enfin, aucune école, aucun lycée. Et donc, on ne peut pas être performant si nous sommes 150 dans une salle de classe. Le plus important, ce n'est pas de déclarer le sinistre, c'est d'apporter des solutions pour régler le sinistre. Et à ce niveau, je crois que c'est sa responsabilité d'apporter des solutions. Sa responsabilité, ce n'est pas seulement de diagnostiquer.
Mais qu'est-ce qui empêche la construction de ces écoles, à votre avis?
Ah ben, ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est lui qui gère le budget de l'État. C'est à lui. C'est lui qui, selon les dires des ministres du budget, et qui a géré plus de 3 000 milliards en investissement. C'est lui qui décide, par exemple, d'organiser une CAN ou deux CAN en l'espace d'un mandat, au lieu de construire les écoles. C'est lui qui fait le choix, c'est lui qui gère le budget. Donc c'est à lui qu'il faut poser les questions pour savoir qu'est-ce qui... D'ailleurs, essayer de réécouter tous ses discours s'agissant de l'éducation et poser-lui la question, pourquoi est-ce qu'il ne construit pas les écoles?
Monsieur Yama, l'efficacité du secteur éducatif ne dépend pas simplement des salles de classe ni des écoles. Il y a également la qualité de l'enseignement.
Sauf à démontrer que nos enseignants ne sont pas correctement formés. Hein. Je crois que l'ENI qui forme nos instituteurs et l'ENES qui forme nos professeurs sont des établissements de renom. Mais on les forme, nos instituteurs et nos professeurs, pour qu'ils soient dans une classe au maximum de 40 élèves ou 50 élèves tout au plus. Mais un instituteur formé pour 40-50 élèves, si vous lui mettez 150 élèves, vous pensez qu'il va se comporter comment? Il y a peut-être que 10 ou 15 qui vont suivre. Et donc la conséquence, ce sont les échecs.
Monsieur Yama, les étudiants gabonais sont boursiers, mais visiblement ne donnent pas de bons résultats selon le chef de l'État. Comment l'expliquez-vous?
Mais justement, tout est lié. Vous savez, depuis 2007, on a annoncé la création de 3 universités. Et il y a même eu des budgets, selon la loi de finances, qui ont été mis en place. Mais il n'y a aucune université qui est sortie de terre. On a annoncé énormément d'établissements universitaires, mais aucun établissement n'a vu le jour.
C'était Jean-Rémy Yama, le président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, joint à Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En RDC, 78 cas de la fièvre hémorragique Ebola ont été déclarés dans l'est du pays, avec 44 décès selon les autorités sanitaires et l'OMS. À Goma, une ville d'un million d'habitants, les agents de santé ont mis en place des dispositifs sanitaires et des mesures d'hygiène afin de contrôler la maladie. Les précisions avec Blanche Sanou.
Goma, une ville située à plus de 350 km au sud de l'épicentre de la ville de Mangina, dans la province du Nord Kivu. Ici, le moyen de transport populaire reste les mototaxis. Face à l'épidémie d'Ebola, les autorités sanitaires tentent de minimiser les risques de contamination au sein de la population.
Cette maladie appelée Ebola est déjà proche de nous, donc les clients ne portent pas de casque. On nous a dit que cela pouvait se propager par la sueur et que nos casques sont portés par différents clients. Nous avons donc été autorisés à transporter des passagers sans casque pour empêcher le virus d'Ebola de se propager.
Des postes de lavage des mains ont été installés au coin des rues. Selon les responsables sanitaires, il faut à tout prix que les résidents soient protégés.
Pour prévenir la maladie, J'ai dit à toute la population de Goma et aux environs de bien être vigilant, à se laver les mains parce que la maladie est là et peut arriver à Goma en provenance de Beni par les mouvements transfrontaliers.
Le Congo est un vaste pays forestier qui est devenu un lieu de rassemblement pour de nombreux traitements, y compris la première utilisation de vaccins qui ont permis de contenir une épidémie déclarée en juillet, quelques jours avant la découverte de la dernière flambée. Les résidents de Goma savent que les percées médicales ne signifient pas grand-chose si des mesures simples ne sont pas prises sur le terrain.
Je me suis lavé là-bas, c'est certainement pour me prévenir contre la maladie. Parce que ça fait un moment où nous sommes attaqués par la maladie d'Ebola. Alors pour nous prévenir contre cette maladie, il nous est impérié de nous laver la main. C'est pourquoi je le fais aussi.
Les agents de santé vérifient également la température des résidents dans les lieux publics et à l'entrée de la ville. L'hôpital a mis en place un laboratoire mobile pour tester les cas suspects.
C'est à l'arrivée du pays, c'est pour le prélèvement de la température. La température supérieure à 38 degrés, ça c'est un cas isolé. Nous l'amenons avec courtoisie dans la salle d'isolement et là on va commencer avec la consultation.
L'Ebola provoque des diarrhées, des vomissements et de la fièvre hémorragique et peut se propager par les fluides corporels. Précautions sanitaires, réduction du contact physique, économie au ralenti, un tableau habituel au Congo qui a connu 10 épidémies d'Ebola depuis la découverte du virus sur la rivière Ebola en 1976, tuant au total quelques 900 personnes.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Direction le Burkina Faso où depuis le 20 mars, l'interdiction de transport de personnes par les tricycles est en vigueur à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Mais la police a du mal à faire respecter la mesure car les conducteurs refusent de s'y conformer, créant des tensions entre les deux parties. Reportage Alidou Ouedraogo.
C'était une chaude ambiance ce jeudi devant le stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Des conducteurs de tricycles surexcités, drapeau du Burkina en main pour certains, lance-pierres ou branches d'arbres pour d'autres, dans des slogans hostiles à la police, manifestaient leur mécontentement. Dans une course-poursuite avec la police mercredi soir, un de leurs a vu son engin perforé par balle. Conséquence, une passagère blessée à la cheville. Ces conducteurs de tricycles se disent tout simplement scandalisés.
Ce qu'ils ont fait là, c'est pas raisonnable. C'est une honte pour le Burkina Faso.
L'armée est incapable d'aller lutter contre les djihadistes. C'est en ville qu'il faut tirer les gens. Ça montre la faiblesse de l'armée.
Le commissaire principal de police de Bobo-Dioulasso, Oumarou Sonien, explique les circonstances de l'incident.
Une équipe qui était en mission pour vérifier une information qui nous est parvenue. L'équipe a filé un conducteur de tricycle et quand l'équipe a vu le contrôle, il a refusé, donc s'est déféré au contrôle. Bon, c'est dans la lutte pour l'arrêter qu'un coup accidentellement est parti. Alors, c'était un incident, ce n'est pas un tir qui a été sciemment fait d'ailleurs.
Ces conducteurs de tricycles affirment que le transport de personnes est une question de survie.
Ils n'ont qu'à arrêter d'empêcher les gens de chercher l'argent dans la droiture en fait. Chacun a le droit d'emprunter ses moyens de transport dans n'importe quel pays. C'est pas au Burkina seulement que les tricycles existent. Dans tous les pays, tricycles, taxis, motos, quoi là, ça existe. Si vraiment nous faisons ce travail-là, c'est pas du vol que nous faisons. On fait ça pour pouvoir faire quelque chose.
Le commissaire principal de police de Bobo-Dioulasso, Oumarou Sonien, termine en ces termes.
Dans certains pays, il y a des tricycles qui ont transporté des agents explosifs, qui ont explosé dans des milieux publics ou qui ont fait beaucoup de victimes. Donc, il n'est pas exclu que ce mode opératoire soit aussi utilisé au Burkina Faso. Donc, quand les forces de défense et de sécurité veulent faire leur travail, je pense que les gens n'ont qu'à les laisser tranquillement faire leur travail.
Alidou Ouedraogo, Bobo-Dioulasso, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Avant le début du pèlerinage annuel du Hajj à la Mecque, les fidèles musulmans se sont rendus à la grande mosquée pour la prière du vendredi. Et selon le Coran, les musulmans âgés de plus de 18 ans doivent accomplir ce pèlerinage au moins une fois dans leur vie s'ils en ont les moyens. C'est un acte qui représente un rite de passage essentiel pour les musulmans et aussi un défi logistique pour les autorités saoudiennes qui doivent gérer des foules colossales. Arzuma Compaoré. Après les prières autour de la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'islam, les pèlerins ont effectué aujourd'hui la grande prière du vendredi. C'est l'un des moments attendus par les fidèles musulmans à 2 jours de la marche vers Médine, qui marquera le début du Hajj, le devoir religieux de 5 jours. Rachida Slimani vient d'Algérie.
Je remercie d'abord Dieu de nous avoir permis de visiter sa maison. Nous le remercions de sa bénédiction. S'il y a une chose que nous désirons dans la vie, c'est de faire le Hajj.
Raja Amjad Hussein, lui, vient du Pakistan. Je ne peux pas l'expliquer, je n'ai pas de mots. Pour tout musulman, c'est le plus grand rêve de la vie de voir la Kaaba et de prier pour soi-même, pour ce pays et pour toute la nation musulmane. Cette année, les températures élevées ont forcé de nombreux pèlerins à se réfugier dans des endroits où la température est moins exténuante, ce qui explique en partie le nombre réduit de fidèles à la prière du vendredi. Mais qu'à cela ne tienne, la journée est restée pour beaucoup un temps fort, rempli d'émotions. Pour Famé Diouf, pèlerin du Sénégal vivant à Amsterdam, c'était une expérience inoubliable.
C'est vraiment impressionnant. Quand j'ai vu la Kaaba, vraiment, j'étais comme une plume. J'étais tellement contente que je ne sais pas comment je vais faire. J'ai pleuré.
Le pèlerinage annuel du Hajj, qui va cette année du 19 au 24 août, est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Près de 2 millions de pèlerins sont attendus sur les sites les plus sacrés de l'islam.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Like You, signé Maroon. C'est avec ce titre qu'on se quitte. C'était un choix de Cheikh Kiero qui a réalisé cette édition. Merci à Cédric Franklin à la console. Présentation Abdourahmane Dia, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellent week-end à tous.